CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Allez, vous venez de nous rejoindre, le Mag Aveyron, la suite avec en studio, comme annoncé, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, poète des plantes. Vous nous avez régalé il y a 15 jours avec ce point historique sur les fondements de la biodynamie. Et je crois qu'on va être dans le prolongement aujourd'hui avec...
Oui,
C'est les 100 ans de la biodynamie, là en 2024.
Parce que depuis 1924, il s'est passé beaucoup de choses quand même. L'eau a coulé sous les ponts.
Et cette vision a... Alors, c'est pas une technique agricole, hein, c'est une vision de l'agriculture,
voilà, c'est une vision de l'agriculture. Je vous ai parlé il y a 15 jours, je vous ai dit qu'il y avait eu une série de 8 jours de conférences pour positionner un petit peu les choses. Et dans ces 8 jours de conférences, Rudolf Steiner a parlé de choses différentes. Il a déjà parlé un petit peu des premières conférences, c'est pour positionner l'agriculture dans une agroécologie, on pourrait dire, c'est-à-dire l'agriculture dans l'environnement, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre les plantes, le sol et les plantes et les animaux. Essayer de, c'est toujours cette vision très très globale des choses et non pas complètement parcellisé où on voit la plante toute seule et on dit oh ben on lui donne ça à manger et voilà. Donc toujours on peut pas raconter tout ce qu'il peut dire, mais voilà, faire prendre conscience aux paysans qu'ils sont là au milieu d'un ensemble et que faut pas séparer les différentes choses de cet ensemble, mais par contre essayer de les relier. Donc, et aussi relier la terre, le sol, au ciel, à toutes les influences qui viennent du ciel. Donc il y a, j'en ai déjà parlé, mais le sol qui est en rapport avec la terre et l'eau, et le ciel qui est en rapport avec la chaleur et la lumière, et toujours essayer d'équilibrer ces deux choses-là. Alors, après, dans les autres conférences, il a parlé de ce qu'on a appelé après les préparations biodynamiques, c'est-à-dire de substances pour aider justement à faire cette liaison entre chaque chose. Mais après, dans d'autres conférences, il a parlé d'agronomie, c'est-à-dire que il parlait de ce que c'est que le calcaire, de ce que c'est que la silice, quel est le rôle dans l'équilibre des sols, et ainsi de suite. Mais toujours de manière, quand il parlait de la silice ou du calcaire, il ne parlait pas seulement de la formule chimique ou des quantités, mais de la véritable qualité. Qu'est-ce que c'est que l'être de la silice, à quoi ça sert vraiment, quelle est sa qualité, comme par exemple, il allait dire, là je prends un petit exemple pour essayer d'expliquer les choses, il disait, si un terrain est seulement, il n'y a que de la silice, qu'il n'y a pas du tout de calcaire, alors toutes les plantes vont pousser comme des lianes. Elles vont pousser vers le haut, elles seront verticales. Par contre, si un terrain ne contient que du calcaire, et alors il disait, elles vont pousser de manière verticale et sans donner de graines. Alors on a là par exemple le propre déjà dans des terrains siliceux de la fougère ou de la prêle qui donne des spores mais qui donne pas de graines et qui pousse vraiment vers sur la verticale. Et ensuite il disait par contre le calcaire lui il va avoir tendance à faire pousser les plantes à l'horizontale, donc on risque sur des terrains très très calcaires où il y aurait pas du tout de silice, on aurait des plantes qui seraient au ras du sol avec les fleurs qui sont au ras du sol et qui ne poussent pas du tout sur la verticale. Et après, il dit, mais il y a toujours un peu de calcaire, il y a toujours un peu de silice, il y en a au moins de manière très homéopathique dans l'atmosphère. Donc, on n'est jamais dans ces cas-là, mais on est entre les deux. Donc voilà, un petit peu, quand je dis qualité, c'est de voir un petit peu dans ce que chaque substance peut apporter comme qualité. Donc, Voilà, donc à partir de là, il y a eu des années d'expérimentation, donc il a donné ça, les gens sont repartis avec ça, ont commencé à expérimenter, ont essayé de voir un petit peu comment faire les préparations biodynamiques. Depuis, ça a évolué. Alors, l'histoire, bien sûr, il y a eu, depuis 1924, il y a eu, alors c'était en Allemagne ça, hein. C'est resté en Allemagne pendant très longtemps. Il y a eu 1933, la montée du nazisme en Allemagne. Donc, l'agriculture biodynamique était un peu dérangeante dans l'ordre des choses. Je ne sais pas pourquoi pour les nazis, mais en tout cas, il y a beaucoup de biodynamistes qui sont émigrés, qui sont partis aux États-Unis parce que ils étaient persécutés. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a été sûrement aussi meurtrière que la première quand même, et qui a laissé aussi une Allemagne complètement exsangue, une Europe, Allemagne et France complètement démolie, où là aussi encore de nouveau beaucoup de jeunes paysans sont morts à la guerre. Et ensuite, donc, est arrivé 1945, la reconstruction de l'Allemagne, la reconstruction de la France aussi, et là, une accélération de l'agriculture vers une agriculture vraiment comme on la connaît maintenant, avec l'utilisation de... Alors, il y avait plus que les engrais après, les pesticides qui sont apparus, il faut savoir quand même les désherbants. Les désherbants, c'est peut-être que vous avez entendu parler du napalm au Vietnam. C'était un désherbant qu'on brûlait les terres pour que les résistants vietnamiens ne puissent plus manger, ne puissent plus cultiver avec du napalm. Donc, à chaque fois, l'agriculture conventionnelle a utilisé des produits qui sont utilisés aussi, des défoliants, qui sont utilisés quelquefois en cas de guerre. Donc là, il y a eu une accélération de l'agriculture, puisque moi, j'ai connu cette agriculture paysanne des années 50-60, des années 60, qui était encore pas très très moderne. Hein. Mais là, il y a eu une accélération. Et cette accélération, autant quelquefois il fallait un siècle pour qu'il y ait la société ou quelque chose qui change, là ça s'est fait en quelques années. En quelques années, on est arrivé. Et donc, dans les années 60, déjà, en France, alors en Allemagne, l'agriculture biodynamique était déjà bien implantée, quand même. Et en France, est apparue l'agriculture qu'on appelait biologique, avec monsieur le maire Boucher, monsieur le maire et Boucher, l'agriculture le maire Boucher, qui était à la base de la vie claire, et ainsi de suite. En réaction avec ce qui se passait dans l'agriculture, l'agriculture moderne. Donc l'agriculture biodynamique est restée, a continué de son évolution. Elle s'est développée beaucoup dans d'autres pays. Alors justement, au cours de la Seconde Guerre mondiale, où il y a beaucoup de biodynamistes qui ont fui l'Allemagne, en fait, donc qui sont allés aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et... en Inde, il y en a pas mal aussi. Il y a vraiment dans 50 pays du globe, il y en a en Égypte, où cette forme d'agriculture est pratiquée. Et je voudrais dire que avec le même cahier des charges, il y a un cahier des charges qui s'appelle Déméter, et c'est un cahier des charges international, c'est-à-dire que vous achetiez un produit Déméter qui vient d'Égypte ou un produit Déméter qui vient d'Argentine. il sera le même cahier des charges. Les cultures auront, ou l'élevage aura été fait selon les mêmes directives, les mêmes choses. Donc, c'est le seul, puisque en agriculture bio, bon, on a un cahier des charges européen, mais après, on n'a pas de cahier des charges mondial, en fait. C'est la seule forme d'agriculture biologique, puisque c'est une agriculture biologique, sans engrais chimiques, sans produits de synthèse, mais qui est internationale. Donc, voilà un petit peu, en quelques gros traits...
Parfait. Biodynamie, à partir de quel moment le terme biodynamie a été installé?
Alors, c'est pas Steiner qui a parlé, qui a donné un nom. Je pense que c'est ensuite les autres personnes qui étaient présents là à ces conférences, qui ont commencé à monter des expérimentations, qui ont créé. Donc en allemand, c'était biologische dynamische Agriculture. Donc, ce qui veut dire agriculture biologique dynamique. Alors, biologique, dans le terme qu'en allemand, ça veut dire qui a trait à la vie, et dynamique, les forces. Donc, une agriculture, en fait, qui stimule les forces de vie. On pourrait dire, alors après il y a une contraction en français qui n'est pas du tout utilisée en allemand, on continue de... mais on aime bien contracter les mots en français et donc c'est devenu biodynamie.
Une agriculture comment dire, instinctive aussi, est-ce qu'elle continue à évoluer, à progresser alors, selon les pratiques des uns et des autres?
Voilà, elle continue d'évoluer parce que un peu, on pourrait dire que chaque biodynamiste va expérimenter des choses et peut après en parler. Par exemple, actuellement, on travaille beaucoup en France avec des préparations qui ont été proposées par l'Australie. Qui avait des gros problèmes de désertification, de terres, un climat très sec, de terres pauvres, et des très grands domaines, hein, c'est 10 000 hectares là-bas. Et donc, qui ont mis en place des préparations pour lutter contre ce phénomène de dessèchement, et qui ont donné des très bons résultats, quelque part. Donc, on n'est pas figé sur ce qui a été donné il y a 100 ans, il y a beaucoup de préparations dont j'ai déjà parlé, comme le compo de Bouze, par exemple, qui est apparu après. Il y a sans arrêt des évolutions, des effets de mode aussi, quelque part. Parce que, du coup, parce que ce qui est nouveau, quelquefois, les gens se partent là-dessus et oublient ce qu'on faisait avant. Et voilà, c'est humain.
Hein. Oui, donc, l'instinct joue aussi, non? Qu'on est...
Alors, l'instinct, oui. Ça, l'agriculture biodynamique, on pourrait dire que la première chose qu'on fait quand on... L'instinct, je ne sais pas, mais quand on va voir un agriculteur qui veut se convertir à l'agriculture biodynamique, ce qu'on lui apporte déjà, c'est d'affiner son regard, de changer sa manière de voir les animaux, de changer sa manière de revoir les sols, de regarder les plantes, et donc de revoir un peu une certaine autonomie au niveau de l'action qu'il peut avoir. Donc oui, on peut parler d'instinct dans le fait, mais l'instinct se nourrit. Quelquefois, quand on dit instinct, on pense quelque chose qui arrive là comme ça, mais l'instinct, il se nourrit aussi de toute une expérience, d'un certain regard, voilà. Donc, la première chose qu'on pourrait lui dire, c'est « change ton regard quand tu regardes une plante, quand tu regardes un animal, quand tu regardes un humain, change ton regard et essaye d'aller voir plus loin que ce que tes yeux voient, mais ressentir un peu plus. » Donc là, on peut peut-être parler... plutôt que d'instinct, je parlerais de ressenti. Voilà.
De perception.
De perception.
Merci Didier, c'est parfait. Voilà, pour ponctuer la deuxième intervention de l'année sur un peu d'histoire autour de la biodynamie qui fête les 100 ans c'est les fondations.
Alors,
en 1900.
On en reparlera sûrement quand il y aura des événements qui se feront pour en parler. Et on reprend le mois prochain avec une série de plantes.
Ah bah d'accord, parfait. Il y a encore beaucoup à dire sur la biodynamie. Les plantes, c'est très bien aussi.
Voilà.
Merci Didier.
Au revoir David.
Des plantes, des hommes et de la biodynamie. Le rendez-vous bimensuel animé par Didier Vallet. Excellente journée. À dans 15 jours Didier.
Au revoir.
C'était le mag de ce 22 janvier. Merci de votre écoute. L'intervention et le mag sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr et la suite du programme dans un instant.
CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.